Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire d'héritage, doublée, vous allez le voir dans un instant, d'une affaire d'évasion fiscale absolument unique dans l'histoire. L'affaire Wildenstein, qui éclate à Paris en 2001 à la mort de Daniel Wildenstein, le plus grand marchand d'art de la planète.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Chez les Wildenstein, c'est Dallas, mais à Paris. Laissez-moi vous les présenter. Il y a Daniel Wildenstein, le patriarche, richissime, le plus grand marchand d'art du XXe siècle. Vous m'entendez? Le plus grand, héritier de plusieurs générations d'experts, de collectionneurs, de marchands de tableaux. Des galeries à Paris, à New York, à Tokyo, à Londres, et un institut, un centre de recherche et d'édition, qui fait référence dans le monde entier. Daniel, donc. Et puis il y a sa deuxième femme, Sylvia, 68 ans, ex-mannequin d'origine ukrainienne, grande, blonde, un peu allumée. Vous voyez Ariel Dombal? Le même genre. Et enfin, il y a les deux fils, Alec et Guy Wildenstein, nés d'un premier mariage, comme on dit. Pour vous dire tout de suite la vérité, le père les méprise. Il passe son temps à les humilier. N'empêche que ce sont eux qui vont prendre bientôt les rênes de l'Empire. Parce qu'il faut que je vous dise, le patriarche se meurt. Un cancer. Au moment où débute cette histoire, Daniel Wildenstein, 84 ans, entre à la clinique Turin, dans le 8e arrondissement de Paris. Un cancer, en effet. Une saleté de cancer. Les médecins tentent une opération, mais c'est l'échec. Daniel sort du bloc dans le coma, le 13 octobre 2001. Et à partir de ce moment-là, ce moment où le patriarche est entre la vie et la mort, c'est fou ce qu'il va avoir comme activité. Il va vendre, acheter, transférer des biens et même participer à une assemblée générale de l'une de ses sociétés. Tout ça au son du bip, bip, bip de sa machine de réanimation. Un miracle! Ah, il faut les voir, les hommes en gris au siège de son empire. Des avocats, des notaires, des conseillers financiers qui s'agitent comme des petits rats. Il y a des Français, des Américains, des Suisses. Je vous rappelle qu'on est chez le plus grand marchand d'art du monde. Et ils sont là tous, et ils l'ont déjà enterré. Remarquez, l'histoire leur donne raison, puisque Daniel Wildenstein meurt après 10 jours de coma, le 23 octobre 2001. Et il n'a pas laissé de testament. En vertu de quoi, Sylvia, sa femme, hérite de la moitié de l'Empire et les deux enfants, Alec et Guy, de l'autre moitié. Ça, c'est la théorie. 3 semaines après la mort de Daniel, les deux fils appellent Sylvia. Ils veulent la voir. Il lui propose de venir à l'Institut Wildenstein, le bel hôtel particulier de la rue de la Boétie, à Paris. Et elle y va, bien sûr. Mais en chemin, son chauffeur, Eduardo, qui avec le temps est devenu son homme de confiance, son confident, lui dit « Madame, faites attention, hein. Ne signez rien. Ce sont des requins, vos beaux-fils. » « Mais non, ne vous inquiétez pas. Ils vont s'occuper de moi. » C'est Daniel qui le leur a demandé. La naïve. Car voilà ce que les deux beaux-fils ont à lui dire. Écoute, Sylvia, on a fait le point. Les affaires de papa étaient moins florissantes que ce qu'on disait. Il est mort, ruiné, ruiné.
Ruiné? Mais c'est pas possible.
Ah oui, il avait le fils sur le dos. Tu le sais, ce sont des chiens. Ils vont prendre tout ce qui reste. Et après, c'est toi qu'ils ne vont pas lâcher.
Moi, on m'a dit au départ que mon mari est mort fauché, qu'il n'y a rien. Et je l'ai cru.
Les fils ne mentent pas sur un point. Daniel Wildenstein fuyait l'impôt comme la peste. En conséquence de quoi, le fisc lui cherchait des noises. Remarquez, il y a de quoi. Pour rire. Vous savez combien il a osé déclarer comme revenu en 1996? Je vous parle toujours du plus grand marchand d'art du monde. 2034 euros. Forcément, le fisc n'a pas aimé. Un type qui voyage en jet privé, qui vit entre l'avenue Montaigne à Paris et son ranch de 30 000 hectares au Kenya, c'est là qu'on a tourné Out of Africa, qui a un appartement à New York et une île privée aux Caraïbes, 2034 euros. Qui peut croire une telle blague ? Quoi qu'il en soit, les fils la jouent finaux quand devant Sylvia, ils utilisent l'argument du fisc. Et ouais, ça tient debout, pour Sylvia en tout cas. Sylvia n'a jamais été qu'un papillon sur l'étoile de Daniel. Rendez-vous compte, elle n'avait même pas son propre compte en banque. C'est lui qui s'occupait de tout. Alors on lui dit qu'ils étaient ruinés. Elle n'en sait rien. On le lui dit, c'est que c'est vrai. Et les deux lardons la dorlotent. On est ruinés, mais ne t'inquiète pas, hein. Papa avait tout prévu pour te protéger au cas où. Il a tout organisé. Nous maintiendrons ton train de vie.
Ils m'ont dit, ton mari est mort. Fauché, il faut signer pour qu'avoir tous tes droits, que tout ira bien, que tout va aller. On va s'occuper de toi comme papa. Tout va aller bien, signe. Alors j'ai signé.
Et en fait, ils vous ont fait renoncer à l'héritage.
Ils ont fait renoncer à l'héritage.
Elle leur a tout donné. Tout. Enfin, ils lui ont tout de même laissé la jouissance d'un appartement. Pas mal d'ailleurs. 600 mètres carrés en duplex, plus terrasse avec jardin près du bois de Boulogne. Une rente de 30 000 euros par mois. Et elle garde ses bijoux et quelques chevaux de course. Vous me direz, elle ne s'en tire pas mal. Et de votre point de vue, je comprends. Mais de son point de vue à elle, c'est une sacrée dégringolade.
Ça changeait souvent à la maison, mais quand j'étais à New York, par exemple, j'avais ces anneaux au-dessus de mon lit, un noir en face, mon nez par là. On vivait avec des tableaux magnifiques.
Et maintenant, si on se plaçait du côté des fils, pour voir. Certes, ils ont mis leur belle-mère sur la paille. Mais à leur décharge, c'est dans la logique des Wildenstein, depuis des générations. Prendre le trésor et le transmettre aux prochains héritiers mâles, discrètement. Alors, avec cette petite rente, les chevaux, l'appartement, les fils ont l'impression d'avoir été corrects. Tu t'es bien occupé de papa ? Merci. Prends ton pourboire. Et voilà. Nous, on s'occupe des affaires des Wildenstein, comme notre père, comme notre grand-père et comme les autres avant eux. On continue de planquer le trésor. Quand vient le moment de régler la succession officielle, on fait l'addition des biens officiels. Quelques tableaux, mais rien d'exceptionnel. Un bel appartement avenue Montaigne. Un château dans les Yvelines. Bref, 43 millions d'euros d'actifs. Daniel Wildenstein, 43 millions d'euros. Pour régler les 17 millions d'euros de droits de succession, les deux fils cèdent à l'État quelques bas-reliefs sculpté pour Marie-Antoinette. Et hop, réglé l'héritage. L'héritage de ce pauvre Daniel Wildenstein, qui serait donc mort, quasi ruiné. 43 millions d'euros. Et le reste ? Le reste ? Il est où, le reste ?
Le patriarche, la figure de cette dynastie, a été pendant 80 ans Daniel Wildenstein. Il avait amassé l'une des plus grandes collections de peintures impressionnistes. 20 Renoir, 10 Van Gogh, 10 Cézanne, mais aussi des Gauguin ou encore plus largement des Rembrandt.
Vis-à-vis de leur belle-mère, les deux fils, Alec et Guy, vont commettre une grosse faute. Une très grosse faute. Une faute de goût, qui pourrait leur coûter très cher. En 2003, ils veulent récupérer les chevaux. Et là, patouche ! Les chevaux, Sylvia, c'est sa passion, qu'elle partageait à 100% avec son Daniel. Les chevaux sont ses bébés, et avec l'écurie Wildenstein, elle a les plus beaux bébés du monde.
Cette année, chacun s'accorde à penser que la 53e édition de la course ne peut échapper à Yves Saint-Martin. À présent rétabli de sa blessure, il montera encore à Les France. L'Arc de Triomphe, c'est en quelque sorte le championnat du monde des galopeurs. Comme chaque épreuve au sommet, la course est minutieusement préparée pendant une ou deux années avec, bien sûr, des sujets qui sont des champions de naissance. ainsi celles que l'on appelle les demoiselles de l'écurie Wildenstein, Polista et Aléphance.
Il lui demande de rendre les chevaux pour les vendre à des Irlandais. Ah ça non, pas les chevaux. Et c'est là que Sylvia prend contact avec une avocate. Et c'est un tournant. Maître Claude Dumont-Bégui est une voisine. Et pour vous dire si elle est tenace, récemment, elle a fait saisir un Boeing 747 pour se faire payer ses honoraires. En deux coups de cuillère à peau, elle règle la question des chevaux. Sylvia les garde. Cession refusée. Et après, toutes les deux, elles se mettent à gratter. Et elles engagent un long combat judiciaire. Et au bout de 2 ans, première victoire. Sylvia récupère sa part, la part qu'elle avait imprudemment cédée à ses 2 beaux-fils, soit 15 millions d'euros. Mais ça c'est l'héritage officiel. Mais le reste, tout le reste, les Renoir, les Van Gogh, les Cézanne, les Gauguin, les Rembrandt, c'est à elle aussi. Ils sont où, ces tableaux? La réponse que je vous donnerai dans un instant est absolument hallucinante. Sylvia, je vous l'ai dit, a embauché une avocate pour tenter de récupérer sa part de l'héritage. Maître Claude Dumont-Bégui, qui va alors se lancer dans une chasse au trésor mondiale. Et c'est comme ça, par exemple, qu'elle découvre au Metropolitan Museum de New York un Caravage, le joueur de luth, prêté par Daniel Wildenstein. Valeur de la toile, entre 80 et 100 millions d'euros. Sylvia lui a aussi parlé d'un bonnard qui lui avait tapé dans l'œil un jour dans une galerie. Une jeune fille nue appuyée sur une baignoire. Sylvia dit que quelques semaines plus tard, le tableau s'est retrouvé chez eux, avenue Montaigne, et que Daniel lui a dit
« En fait, chérie, il était à moi, ce tableau. Je l'avais prêté à la galerie. »
Mais depuis la mort de Daniel, le tableau a disparu. Et c'est comme ça que l'avocate va mettre à jour le système qui a permis aux Wildenstein, avant le père et aujourd'hui les fils, de dissimuler l'essentiel de leur fortune au fisc français. Le système des trusts. Ce qui est amusant, c'est que Daniel Wildenstein avait baptisé son trust Sylvia Trust, du nom de sa femme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trust? Eh bien c'est une société, domiciliée en général dans un paradis fiscal, et à laquelle vous donnez, en l'occurrence ici, des tableaux. Officiellement, les tableaux ne sont plus à vous. En revanche, si le trust les vend ou s'il les loue, l'argent revient dans votre poche discrètement. Mais ça, le fisc n'en sait rien. Et c'est comme ça que l'avocate découvre que, par exemple, Daniel Wildenstein a donné 19 tableaux de Bonnard au Sylvia Trust basé aux Bahamas. Et que sans doute les deux fils ont mis la main dessus. Mais comment le prouver? Elle va à Nassau, la capitale des Bahamas, Maître Dumont-Bégui. Et elle lance des procédures, mais...
Le trust est aux Bahamas, dépend de la loi des Bahamas. Donc il faut faire le lien entre une succession en France, des œuvres en Suisse, un trust aux Bahamas. Voilà.
En vérité, tous les biens des Wildenstein, les tableaux, le ranch au Kenya, l'île privée aux Caraïbes, tout est logé dans des trusts. Officiellement, ils ne sont pas propriétaires. Le fisc ne peut rien faire. Un expert évalue que la vraie fortune des Wildenstein pourrait être en vérité 200 fois plus importante que ce qui a été déclaré au fisc français au moment de la mort de Daniel. 200 fois plus importante. Les fils ont déclaré 43 millions d'euros. En vérité, ça pourrait être 8 milliards. Vous avez bien entendu, 8 milliards d'euros planqués dans des paradis fiscaux. Voilà le pot aux roses que la veuve Wildenstein, agacée qu'on lui prenne ses chevaux, vient de mettre à jour. Mais est-ce que c'est illégal? Eh bien, c'est tout le sujet. Eh bien, non, répond la justice. L'évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts est conforme à la tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs. Et voilà. C'est scandaleux, mais A priori, c'est légal. Sylvia et maître Dumont-Béguy se heurtent à un mur. Et elles ont beau porter plainte pour abus de confiance et détournement de fonds, un mur. Elles ont en face d'elles un mur.
J'ai pour la première fois saisi l'administration fiscale le 19 mai 2009. J'ai écrit deux fois à M. Woerth, ministre du budget. J'ai écrit à M. Barmoin le 6 juillet 2010. J'ai écrit à Mme Valérie Pécresse le 27 juillet 2011. Aujourd'hui, aucune réponse.
Bercy n'a pas l'air vraiment pressé de s'intéresser à cette histoire. Et pourquoi donc, hein? Pourquoi? Y aurait-il de la politique là-dessous? C'est bien possible, ma foi. Il paraît que Guy Wildenstein est très proche de Nicolas Sarkozy et d'Éric Woerth, son ministre du budget. On les voit ensemble à Chantilly, où Guy fait courir ses chevaux et dont Woerth a été le maire. Est-ce que c'est pour ça que Bercy ferme les yeux sur la carambouille? En tout cas, à l'Assemblée, le député socialiste Alain Vidalis interpelle le gouvernement.
Comme dans l'affaire Bettencourt, la justice a pu constater dans le dossier Wildenstein, je cite, l'évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts. Comme dans l'affaire Bettencourt, il est établi que M. Guy Wildenstein est membre du fameux premier cercle collecteur de fonds pour l'UMP. Qu'ainsi, le 7 janvier 2007, M. Wildenstein se trouvait à New York aux côtés de M. Woerth, trésorier de l'UMP, pour récolter des fonds pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Comme dans l'affaire Bettencourt, l'administration fiscale est restée totalement inerte à ce jour.
Sylvia, l'épouse flouée de Daniel Wildenstein, s'épuise en procédure pour tenter de récupérer sa part du magot. En théorie, c'est la moitié. Et maintenant, elle est ruinée. Et à un moment donné, elle doit même mettre ses bijoux en gage chez ma tante, au crédit municipal, comme une pauvresse. Elle ne peut même plus payer les réparations de sa voiture. Vous vous rendez compte, c'est son chauffeur, Eduardo, qui doit lui prêter la sienne. Et finalement, Sylvia meurt en novembre 2010. Bon prince, le fils Guy accepte qu'elle soit enterrée dans le même caveau que son père, au cimetière du Montparnasse. Mais elle ne connaîtra pas la fin de l'histoire. Car finalement, montré du doigt, le nouveau ministre du budget François Baroin porte plainte pour fraude fiscale. Le fisc réclame 600 millions d'euros aux héritiers de Daniel Wildenstein, qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel en janvier 2017. Mais que dit le tribunal à la fin? Eh bien, les juges sont un peu embêtés et ils l'écrivent dans leurs attendus, le petit texte qui explique leur jugement. Le tribunal a parfaitement conscience que la décision est susceptible d'heurter le sens commun et d'être incomprise du peuple français au nom de qui la justice est rendue. Ils en prennent des précautions pour annoncer leur décision. Et il y a de quoi? Puisqu'ils prononcent un non-lieu général. Ils disent en gros que tout le montage d'évasion fiscale est parfaitement légal. 8 milliards de patrimoine et 17 petits millions de droits de succession, soit 0,2% d'impôt. C'est légal. Maître Temim, l'avocat de Guy Wildenstein, se régale.
Ce tribunal a rendu une décision absolument remarquable. Et ce qu'a dit le tribunal, de manière résumée, c'est qu'avant les poursuites, d'ailleurs infondées, contre M. Wildenstein, il n'y avait pas de loi qui permettait de dire que les biens supposés avoir été l'objet de la fraude devaient faire l'objet d'une déclaration. C'est tout. C'est-à-dire que M. Wildenstein s'est retrouvé poursuivi au pénal avec un risque de prison pour ne pas avoir payé des impôts dont le tribunal dit aujourd'hui qu'à son avis, il n'était pas dû. Donc il ne s'en sort pas bien. Il s'en sort normalement.
Le parquet a décidé de faire appel de ce non-lieu. Il y aura donc bientôt un nouveau procès. On ne sait jamais. Mais maintenant que je vous ai raconté cette histoire, vous êtes comme moi. Vous avez des doutes.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.